Emmanuel Kant. La religion dans les limites de la raison. Première partie. Grand 5. Du rétablissement dans sa force de la disposition primitive au bien. L'homme doit nécessairement s'être fait ce qu'il n'est au point de vue moral, ou se faire à lui-même ce qu'il doit devenir, bon ou mauvais. Sa qualité morale doit être un effet de son libre arbitre, car autrement, elle ne pourrait pas lui être imputée. Et il ne serait ni bon ni mauvais moralement. Dire qu'il est né bon, c'est dire seulement qu'il est né pour le bien et que sa disposition primitive est bonne. Mais l'homme, pour cela, n'est pas encore bon lui-même. C'est au contraire en acceptant ou non, dans sa maxime, ce qui doit être entièrement laissé à son libre choix, les mobiles contenus dans cette disposition, qu'il se donne à lui-même la qualité d'être bon ou d'être mauvais. Supposer que, pour devenir bon ou meilleur, soit encore requise une coopération surnaturelle, qui peut être indifféremment un simple amoindrissement des obstacles ou même un secours positif. L'homme n'en doit pas moins commencer par se rendre digne de recevoir cette assistance et par accepter ce concours, ce qui est déjà quelque chose, c'est-à-dire admettre dans sa maxime l'augmentation positive des forces par laquelle seul il devient possible que le bien lui soit imputé et qu'il soit reconnu pour un homme de bien. Or, comment se peut-il qu'un homme naturellement mauvais se rende par lui-même bon? Cela dépasse toutes nos idées. Comment, en effet, un arbre mauvais peut-il produire de bons fruits? Note. L'arbre dont la disposition est bonne n'est pas encore bon, en fait, car s'il l'était, il est évident qu'il ne pourrait point porter de mauvais fruits. Ce n'est qu'après avoir reçu dans sa maxime les mobiles placés en lui pour servir à la loi morale que l'homme est dit un homme bon, l'arbre, absolument, un bon arbre. Fin de la note. Retour au texte. Nous avons cependant dû avouer plus haut qu'un arbre originairement bon, dans sa disposition, en est venu à produire de mauvais fruits. Et comme la chute, ou passage du bien au mal, si l'on réfléchit que le mal provient de la liberté, est aussi peu compréhensible que le relèvement, ou passage du mal au bien, même si on ne peut pas nier la possibilité de ce relèvement. Car malgré cette chute, nous entendons pourtant résonner dans notre âme, aussi forte qu'auparavant, la voix de ce précepte. Ouverture de guillemets, nous devons devenir meilleurs. Fermeture de guillemets. Donc il faut que nous en ayons le pouvoir. Même si, à lui seul, ce que nous pouvons faire devait rester insuffisant et pouvait seulement nous rendre susceptibles d'un secours supérieur, pour nous, inexplicable. Sans doute, il faut supposer pour cela qu'il subsiste un germe du bien, ayant gardé toute sa pureté, qu'il ne pouvait pas être annihilé ou corrompu. Et sûrement ce germe n'est pas l'amour de soi, qui, adopté comme principe de toutes nos maximes, est précisément la source de tout le mal. Note. Les mots, qui peuvent recevoir deux sens tout différents, sont bien souvent la cause qui empêche longtemps les raisons les plus claires de produire la conviction. Comme l'amour, en général, l'amour de soi peut se subdiviser en un amour de bienveillance et un amour de complaisance, qui doivent tous deux, cela va sans dire, être raisonnables. Admettre le premier dans sa maxime, c'est une chose naturelle, qui ne souhaite pas en effet que tout aille bien sans cesse pour lui. Mais cet amour n'est raisonnable qu'autant que, d'une part, en ce qui regarde le but. On fait choix seulement de ce qui peut coexister avec la plus grande et la plus durable prospérité, et que, d'autre part, on choisit pour chacun de ces éléments de la félicité les moyens les plus convenables. Ici, le seul rôle de la raison est d'être la servante de l'inclination naturelle. Et la maxime qu'on adopte pour cette fin n'a aucun rapport à la moralité. Mais ériger cette maxime en principe inconditionné du libre arbitre, c'est en faire la source de contradictions apportées incommensurables dans la moralité. L'amour raisonnable de complaisance en soi-même peut être entendu de deux manières. S'il se borne à signifier que nous nous complaisons dans les maximes surnommées tendant à la satisfaction de l'inclination naturelle, en tant que ce but est atteint par leur mise en pratique. Cet amour alors ne fait qu'un avec l'amour de bienveillance à l'égard de soi-même. On est content de soi, comme l'est un marchand dont les spéculations commerciales ont réussi et qui, songeant aux maximes mises en œuvre, se félicite de son bon jugement. Seule la maxime de l'amour de soi, basée sur la complaisance inconditionnée en soi-même. Entre parenthèses, sur une complaisance telle qu'elle ne soit pas dépendante du gain ou de la perte résultant de l'action. Fermeture de la parenthèse. Donc, cette maxime de l'amour de soi basée sur la complaisance inconditionnée en soi-même serait le principe intérieur d'une satisfaction pour nous possible, mais dont la condition serait la subordination de nos maximes à la loi morale. Si la moralité ne lui est pas indifférente, l'homme ne peut pas éprouver de la complaisance en soi-même. Il ne peut même pas s'empêcher d'éprouver un amer déplaisir à l'égard de soi-même lorsqu'il a conscience d'être attaché à des maximes qui ne s'accordent pas avec la loi morale en lui. On pourrait appeler l'amour dont nous parlons l'amour de raison de soi-même, car il s'oppose à ce que d'autres causes de satisfaction tirées des conséquences de nos actes, sous le nom d'un bonheur à se créer par là, viennent se mêler au mobile du libre arbitre. Mais comme une telle attitude dénote un respect inconditionné pour la loi, pourquoi veut-on sans nécessité se servir de cette expression « amour raisonnable de soi » mais qui n'est moral qu'à la condition de conserver au mobile leur pureté et rendre ainsi plus difficile la claire intelligence de principe, puisque l'on tourne dans un cercle. Car on ne peut s'aimer soi-même que d'une manière morale, en tant que l'on a conscience d'avoir une maxime qui fait du respect de la loi le mobile suprême de notre libre arbitre. Le bonheur est pour nous la première des choses et celle que nous désirons inconditionnellement, conformément à notre nature d'être dépendant des objets de la sensibilité. Mais conformément à notre nature, si l'on consent à appeler ainsi, d'une manière générale, ce qui nous est inné, d'être doué de raison et de liberté, ce bonheur, bien loin d'être la première des choses, n'est même point pour nos maximes un objet inconditionné. Cet objet inconditionné, c'est de mériter d'être heureux, en mettant toutes nos maximes d'accord avec la loi morale. Que, d'une manière objective, cette condition seule permette au désir du bonheur de s'accorder avec la raison législatrice, c'est là le fond de toute prescription morale. Et toute la façon morale de penser est contenue dans l'intention de ne désirer le bonheur que d'une manière conditionnée. Fin de la note, retour au texte. Le rétablissement de la disposition primitive au bien en nous n'est donc pas l'acquisition d'un mobile inclinant au bien, que nous aurions perdu. Car un tel mobile qui consiste dans le respect pour la loi morale, nous n'avons jamais pu le perdre. Et en admettant que nous l'eussions pu, nous ne le recouvrerions jamais plus. Ce rétablissement n'est donc que la restauration de la pureté du mobile, en qualité de principe suprême de toutes nos maximes. Et d'après cela, ce mobile doit être accepté dans le libre arbitre, non seulement avec d'autres mobiles auxquels il se rattache, ou même s'il s'agit des inclinations. Il est subordonné comme à ses conditions, mais dans toute sa pureté, comme un mobile, suffisant par lui-même, de détermination du libre arbitre. Le bien consiste originellement dans la sainteté des maximes qui font accomplir le devoir. Et c'est l'homme qui accepte dans sa maxime la pureté dont nous parlons, n'est point, par cela seul, encore saint lui-même, car la distance est encore grande de la maxime à l'acte. Il est cependant, grâce à elle, en voie de s'approcher indéfiniment de la sainteté. La résolution ferme et devenue habituelle d'accomplir son devoir s'appelle aussi vertu, du point de vue de la légalité, considérée comme caractère empirique de la vertu. Cette vertu est caractérisée par la maxime permanente de conformer ses actes à la loi. Mais chacun reste libre de prendre où il voudra les mobiles requis par le libre arbitre en ce but. En conséquence, la vertu ainsi entendue peut être acquise peu à peu, et certains disent même qu'elle est une longue habitude de l'obéissance à la loi, par laquelle l'homme corrige progressivement sa conduite, s'affermit de plus en plus dans ses maximes et arrive ainsi du penchant au vice à un penchant tout opposé. Une transformation semblable n'exige pas un changement de cœur, mais seulement un changement de mœurs. L'homme se trouve vertueux dès qu'il se sent ancré dans les maximes qui font accomplir le devoir, bien que ce ne soit pas le principe suprême de toutes les maximes. Je veux dire le devoir qui le porte à agir ainsi. Ainsi, par exemple, l'intempérant retourne à la modération par souci de sa santé, le menteur à la sincérité par souci de son honneur, le malhonnête homme à la loyauté bourgeoise par souci de son repos ou de son intérêt, etc. Tous se basent sur le principe si apprécié du bonheur. Mais pour devenir bon, non seulement légalement, mais encore moralement, pour se rendre agréable à Dieu, c'est-à-dire pour devenir un homme vertueux sous le rapport du caractère intelligible, et qui n'a plus besoin, quand il reconnaît quelque chose comme un devoir, d'aucun autre mobile que de la représentation du devoir même, on ne saurait se contenter d'une réforme progressive, tant que demeure impure la base des maximes. Mais il faut que s'opère au fond de l'intention de l'homme une révolution qui le fasse passer à la maxime de la sainteté de cette intention. Ce n'est donc que par une sorte de régénération ou même de création nouvelle, comme dit l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 5. Et par un changement de cœur que l'homme peut devenir un homme nouveau. Mais s'il est corrompu jusque au fond de ses maximes, comment l'homme peut-il opérer par ses propres forces la révolution nécessaire et redevenir par lui-même homme de bien? Et pourtant le devoir ordonne d'être tel, lui qui ne nous ordonne que des choses réalisables. Le seul moyen de concilier ces deux choses est de déclarer nécessaire et par suite possible à l'homme la révolution dans la manière de penser et la réforme progressive dans la manière de sentir, qui oppose des obstacles à cette révolution. C'est dire qu'aussitôt que par une décision unique et immuable, L'homme a transformé le principe suprême de ses maximes qui faisait de lui un homme mauvais et qui n'a de la sorte revêtu un homme nouveau. Il est, dans le principe et quant à la manière de penser, un sujet accessible au bien, mais que c'est seulement par de continuels efforts qu'il deviendra homme de bien. C'est-à-dire qu'en raison de la pureté du principe dont il a fait la maxime suprême de son libre arbitre, et par la fermeté de ce principe, il peut espérer qu'il se trouve sur la voie bonne, quoique étroite, d'un progrès incessant du mal au mieux. En être là, aux yeux de celui dont les regards pénètrent le fond intelligible du cœur, de toutes les maximes du libre arbitre, et pour qui cette infinité de progrès est donc une unité, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, c'est tout à fait la même chose que d'être réellement homme de bien, que de lui être agréable. Et ce changement, à ce titre, peut être considéré comme une révolution. Mais au jugement des hommes qui ne peuvent tabler pour s'estimer eux-mêmes et la force de leur maxime que sur l'empire qu'ils acquièrent sur la sensibilité dans le temps, ce changement ne doit être considéré que comme un effort toujours soutenu vers le mieux, par suite, comme une réforme progressive du penchant au mal. Il suit de là que l'éducation morale de l'homme ne doit pas commencer par l'amélioration des mœurs, mais par la conversion de la manière de penser et la fondation d'un caractère. Bien qu'ordinairement, on ne procède pas ainsi et qu'on s'attaque uniquement aux vices dont on ne touche pas la racine commune. Or, l'homme le plus borné est, lui-même, capable d'éprouver pour une action conforme au devoir un respect d'autant plus grand qu'il la dépouille davantage en pensée d'autres mobiles qui auraient pu influer par l'amour de soi sur la maxime de l'action. Et les enfants eux-mêmes sont capables de découvrir la moindre trace de mélange de mobiles impurs, puisqu'en pareil cas, l'action perd instantanément pour eux toute valeur morale. Cette disposition au bien, on peut la cultiver incomparablement dans les élèves à qui l'on apprend la morale en leur citant l'exemple même des hommes vertueux, dont les actions sont conformes à la loi, et en leur faisant juger de l'impureté de maintes maximes d'après les mobiles réels de leurs propres actes. Elles passent ainsi peu à peu dans la manière de penser, de sorte que, simplement par lui-même, le devoir, dans leur cœur, commence à prendre un poids considérable. Mais lui apprendre à admirer des actions vertueuses, quelque abnégation qu'elles aient pu coûter, ce n'est pas encore donner à l'élève l'état d'âme qu'il doit avoir en présence du bien moral. Pour vertueux que soit un homme, il fait seulement son devoir en accomplissant tout le bien dont il est capable. Et faire son devoir, c'est tout simplement accomplir ce qui est dans l'ordre moral ordinaire, et ce n'est donc pas une chose qui mérite d'être admirée. Cette admiration est plutôt l'indice d'une atonie de notre sentiment pour le devoir, puisqu'elle considère comme chose extraordinaire et méritoire le fait d'obéir au devoir. Mais il est une chose dans notre âme que nous ne pouvons plus, dès que nous l'avons saisie d'un juste coup d'œil, nous empêcher de contempler avec l'admiration la plus grande et avec une admiration qui est alors à la fois légitime et réconfortante pour l'âme. C'est, d'une façon générale, la disposition morale primitive en nous. Qu'y a-t-il en nous ? Peut-on se demander. Pour qu'en dépit de notre condition d'être constamment dépendant de la nature, partant de besoins, nous nous sentions pourtant si fort au-dessus de tous ces besoins, dans l'idée d'une disposition primitive en nous, que nous en arrivons à les compter pour rien, et à nous regarder nous-mêmes comme indigne de l'existence, s'il nous fallait pour satisfaire à ses besoins, ce qui est cependant pour nous la seule jouissance qui rende la vie désirable, aller contre une loi au moyen de laquelle notre raison commande puissamment, sans ajouter à ses commandements de promesses ni de menaces. L'importance de cette question doit être profondément sentie par tout homme de la capacité la plus ordinaire qui a été instruit au préalable de la sainteté renfermée dans l'idée du devoir, mais qui ne s'élève pas jusqu'à l'examen du concept de la liberté, lequel procède immédiatement de cette loi. Note. Que le concept de la liberté de la volonté ne précède pas la conscience de la loi morale en nous, mais qu'il soit seulement conclu de la déterminabilité de notre volonté par cette loi prise en sa qualité de précepte inconditionné, c'est ce dont on peut se convaincre bientôt en se demandant si l'on a conscience d'une façon sûre et immédiate d'avoir une faculté qui permette de surmonter par le ferme propos tous les mobiles, quelque grands qu'ils soient, incitant à la transgression. Chacun devra avouer qu'il ne sait pas si, tel cas se présentant, il ne faiblirait pas dans sa résolution. Et pourtant, le devoir commande inconditionnellement. Tu demeureras fidèle à la loi. Et l'homme a raison d'en conclure qu'il doit pouvoir agir ainsi et que par conséquent sa volonté est libre. Ceux qui prétendent faussement que cette propriété impénétrable est tout à fait compréhensible forgent une illusion avec le mot déterminisme. En ce qui regarde la thèse de la détermination de la volonté par des raisons internes suffisantes, comme si la difficulté consistait à concilier le déterminisme et la liberté, ce à quoi personne ne pense. Mais comment le prédéterminisme, selon lequel les actions volontaires, en tant qu'événements, ont leur raison déterminante dans le temps antérieur, qui, ainsi que ce qu'il renferme n'est plus en notre pouvoir, est-il conciliable avec la liberté, selon laquelle il faut que l'action, tout aussi bien que son contraire, soit, au moment du devenir, en la puissance du sujet. Voilà ce que l'on veut savoir, et ce qu'on ne saura jamais. Il n'y a aucune difficulté à concilier le concept de la liberté avec l'idée de Dieu en tant qu'être nécessaire, parce que la liberté ne consiste pas dans la contingence de l'action, en vertu de laquelle cette action n'est pas déterminée par des motifs, c'est-à-dire dans l'indéterminisme, en vertu duquel il faudrait que Dieu pût également accomplir le bien ou le mal pour que son action dût être appelée libre, mais bien dans la spontanéité absolue qui seule est en péril avec le prédéterminisme, où la raison déterminante de l'action est dans le temps passé, si bien par suite qu'actuellement l'action n'est plus en mon pouvoir, mais dans la main de la nature, et que je suis irrésistiblement déterminé. Or, comment Dieu ? On ne peut concevoir aucune succession de temps. Cette difficulté tombe alors d'elle-même. Fin de la note, retour au texte. L'importance de cette question doit être profondément sentie par tout homme de la capacité la plus ordinaire qui a été instruit au préalable de la sainteté renfermée dans l'idée du devoir, mais qui ne s'élève pas jusqu'à l'examen du concept de la liberté, lequel procède immédiatement de cette loi. Et même ce qu'il y a d'incompréhensible dans cette disposition, qui proclame une origine divine, doit agir sur l'âme jusqu'à l'enthousiasme et lui donner la force de consentir aux sacrifices qui peuvent lui être imposés par le respect de ses devoirs. Exciter fréquemment ce sentiment de la sublimité de notre destination morale, c'est le meilleur moyen que l'on puisse indiquer pour réveiller les sentiments moraux, parce que c'est directement s'opposer au penchant inné qui pousse à intervertir les mobiles dans les maximes de notre libre arbitre afin de rétablir dans le respect inconditionné pour la loi, suprême condition de toutes les maximes à adopter, l'ordre moral primitif des mobiles et de ramener ainsi à sa pureté la disposition au bien dans le cœur de l'homme. Mais un tel rétablissement opéré par nos propres forces n'a-t-il pas contre lui directement la thèse de la perversité innée de l'homme tenue à l'écart de tout bien? Incontestablement, cette thèse s'oppose à la compréhension d'un pareil rétablissement, c'est-à-dire qu'elle nous empêche d'en bien saisir la possibilité, ainsi que tout ce qui doit être représenté comme événement dans le temps, changement, et, en tant que tel, comme nécessaire, suivant les lois de la nature, et dont le contraire, pourtant, sous le règne des lois morales, doit être en même temps représenté comme étant possible, par liberté. Mais elle ne s'oppose pas à la possibilité de ce rétablissement lui-même. Car du moment que la loi morale commande, ouverture de guillemets, vous devez maintenant être des hommes meilleurs, fermeture de guillemets. Il s'ensuit nécessairement qu'il nous faut aussi le pouvoir. La théorie du mal inné n'a aucun rôle dans la dogmatique morale, dont les prescriptions, en effet, portent sur les mêmes devoirs et conservent la même force qu'il y ait en nous ou non un penchant inné à la transgression. Mais cette théorie a une importance plus grande dans l'ascétique morale, où cependant tout son rôle se borne à nous montrer que dans la mise en œuvre de la disposition morale au bien qui nous est innée, nous ne pouvons pas prendre comme point de départ une innocence naturelle à l'homme, mais qu'il nous faut partir de la supposition d'une méchanceté qui affecte le libre arbitre et lui faire adopter des maximes contraires à la disposition morale primitive. Et puisqu'il y a là un penchant indéracinable, lui faire tout d'abord une guerre incessante. Or, tout ceci peut seulement nous amener à une progression indéfinie du mal au mieux, et, en conséquence, nous devons faire consister la transformation de l'intention qui fait du méchant un homme de bien dans le changement du principe interne suprême qui préside à l'acceptation de nos maximes et dans l'adoption d'un principe conforme à la loi morale, en tant que ce nouveau principe, le cœur nouveau, est désormais immuable lui-même. L'homme ne peut pas, il est vrai, arriver naturellement à la conviction d'un tel changement. Rien ne peut l'y mener, ni sa conscience immédiate, ni la preuve tirée de la conduite qui a été la sienne jusqu'ici, car la profondeur de son cœur, le principe subjectif suprême de ses maximes, lui demeure à lui-même impénétrable. Mais il doit pouvoir espérer qu'il arrivera par ses propres forces à la voie qui y mène et qui lui est montrée par une intention foncièrement améliorée. Parce qu'il doit devenir homme de bien, et que c'est seulement, d'après ce qui peut lui être imputé comme son œuvre propre, qu'il peut être dit bon, au point de vue moral. Contre cette prétention du perfectionnement par soi-même, la raison naturellement paresseuse dans le travail moral invoque, sous prétexte de son incapacité naturelle, toutes sortes d'idées religieuses impures. entre autres celle qui prétend que Dieu lui-même fait du principe du bonheur la condition suprême de ses commandements. Or, toutes les religions peuvent se ramener à deux. L'une, de simple culte, cherche à obtenir des faveurs. L'autre est la religion morale, c'est-à-dire la religion de la bonne conduite. Dans la première, les hommes se flattent, soit que Dieu peut les rendre éternellement heureux, par la rémission de leurs fautes, sans qu'ils aient pour cela à devenir meilleurs. Soit, quand cette première supposition ne leur semble pas être possible, que Dieu peut les rendre meilleurs, sans qu'ils aient eux-mêmes autre chose à faire qu'à l'en prier. Et comme prier, devant un être qui voit tout, ce n'est rien de plus que souhaiter, l'homme n'aurait proprement rien à faire. Car s'il suffisait d'un simple désir, chacun serait homme de bien. Mais dans la religion morale, et de toutes les religions connues, la chrétienne est la seule qui mérite ce titre. C'est un principe fondamental que chacun doit faire tout ce qui dépend de lui pour devenir meilleur. Et que c'est seulement quand, au lieu d'enfouir le talent à lui confier, selon Luc chapitre 19, versets 12 et 16, l'homme a utilisé pour devenir meilleur la disposition primitive au bien, qui lui est permis d'espérer qu'une coopération supérieure complétera ce qui n'est pas en son pouvoir. Il n'est pas absolument nécessaire que l'homme sache en quoi consiste cette coopération. Peut-être même qu'immanquablement, si la manière dont elle se produit avait été révélée à une certaine époque, les hommes, à une autre époque, s'en feraient les uns tel concept et les autres tel autre, et cela en toute sincérité. Mais alors ce principe conserve toute sa valeur. Il ne nous est pas essentiel, ni par conséquent nécessaire, de savoir ce que Dieu peut faire ou peut avoir fait pour notre salut, mais de savoir ce que nous avons à faire nous-mêmes pour mériter son assistance. Note. Cette remarque générale est la première des quatre qui termine chacune une partie de cet ouvrage et auquel on pourrait donner les titres suivants. La première, des effets de la grâce. La deuxième, des miracles. La troisième, des mystères. La quatrième, des moyens de la grâce. Ce sont en quelque sorte des hors-d'œuvre de la religion dans les limites de la raison pure, car elles n'en font point partie intégrante, bien que cependant elles s'y rattachent. La raison, dans la conscience de son impuissance à satisfaire à ses exigences morales, s'étend jusqu'à des idées transcendantes, qui pourraient compenser pour elle ce défaut sans se les approprier toutefois, comme des extensions de son domaine. Elle ne conteste ni la possibilité, ni la réalité des objets de ses idées, mais elle ne peut pas, on n'a pas autre chose à dire, les admettre dans les maximes qui règlent sa pensée ou son action. Elle est même assurée que si dans l'impénétrable champ du surnaturel, il y a encore quelque chose, outre ce qu'elle peut comprendre, qui soit cependant nécessaire pour suppléer à son impuissance morale, ce quelque chose, tout en lui, étant inconnu, sera pourtant d'un grand secours à sa bonne volonté. Elle en est assurée, en vertu d'une foi que l'on pourrait appeler réfléchie, eu égard à sa possibilité, parce que la foi dogmatique qui se donne pour une science paraît à la raison insincère ou présomptueuse. Écarter en effet les difficultés opposées à ce qui est en soi, d'une façon pratique, fermement établi, quand ces difficultés portent sur des questions transcendantes, c'est tout simplement un hors-d'œuvre. Quant au préjudice que ces idées, quelque moralement transcendantes qu'elles soient, cause de la religion lorsqu'on veut les y introduire, ils se manifestent dans leurs effets qui sont, suivant l'ordre des quatre classes su-établies, premièrement, la prétendue expérience interne, effet de la grâce, ou le fanatisme. Deuxièmement, la soi-disant expérience extérieure, miracle, ou la superstition. Troisièmement, les lumières extraordinaires que l'on attribue à l'entendement par rapport au surnaturel, mystère, ou l'illuminisme, illusion d'adepte. Quatrièmement, les tentatives osées d'agir sur le surnaturel, moyen de la grâce ou thaumaturgie, purs errements d'une raison sortant de ses limites, et cela dans une intention prétendument morale, agréable à Dieu. Pour ce qui regarde en particulier la remarque générale, terminant la première partie de cet ouvrage, l'espérance de voir les effets de la grâce répondre à notre appel rentre dans la catégorie de ces errements et ne peut pas être acceptée dans les maximes de la raison, si la raison reste dans ses limites. On peut en dire autant d'une manière générale de ce qui est surnaturel, car en cela précisément cesse tout usage de la raison. En effet, il est impossible, théoriquement, de dire à quelle marque on peut les reconnaître et de montrer qu'ils sont les effets de la grâce, non des effets internes de la nature, parce que notre concept de cause et d'effet ne s'applique qu'aux objets de l'expérience et par conséquent ne peut pas dépasser la nature. Quant à supposer une application pratique de cette idée, c'est tout à fait contradictoire. En effet, comme application, elle présupposerait une règle de ce que nous aurions nous-mêmes à faire de bien, à certains points de vue, pour obtenir quelque chose, tandis qu'attendre un effet de la grâce, c'est tout justement le contraire. Et cela présuppose que le bien moral cette fois-ci, ne sera pas notre fait, mais le fait d'un autre être, et que par conséquent, nous pouvons l'acquérir par l'inaction seulement, ce qui est contradictoire. Nous pouvons donc admettre les effets de la grâce en les déclarant incompréhensibles, mais sans leur accorder dans nos maximes ni un usage théorique, ni une utilité pratique.